VOA Afrique, les infos. À Washington.
Chérubin Gabi Dorsil, merci d'être notre compagnie. Dans moins de 10 minutes, le magazine L'Amérique et vous en rediffusion. Mais en attendant, voici un résumé des principales nouvelles du monde. En République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi met fin aux discussions avec Joseph Kabila, le leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, principal parti d'opposition, a rappelé ses délégués des négociations avec les représentants du président congolais, négociations qui préparaient un dialogue politique avant la présidentielle de 2016.
À travers un communiqué signé de Bruxelles où il est aux soins depuis août 2014, Étienne Tshisekedi affirme avoir constaté l'impasse dans les négociations dont l'objectif était de trouver un accord pour l'élection présidentielle de novembre 2016. L'Union pour la démocratie et le progrès social a pris acte de l'échec des entretiens de Venise et d'Ibiza et a mis aux prises ses représentants et ceux du camp Kabila et a demandé à ses délégués de se retirer dès cet instant de la table des négociations, indique Tshisekedi. Selon le communiqué, les pourparlers entre les deux camps devaient ouvrir la voie à un dialogue national avant les scrutins. L'UDPS et ses alliés étaient quasiment la seule tendance politique de l'opposition à accepter l'initiative du dialogue national annoncée par le président Kabila. Les autres formations de l'opposition accusent les chefs de l'État congolais de manœuvrer pour briguer un troisième mandat alors que la Constitution les lui interdit, limitant à deux le nombre de mandats présidentiels. Les opposants rejettent les calendriers électoraux qui prévoient une douzaine de scrutins locaux, régionaux et nationaux avant la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a ordonné récemment une révision de ces calendriers.
Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, entame une visite officielle de 3 jours en France sur invitation de son homologue français François Hollande. Le point avec Dili Diko.
Muhammadu Buhari sera reçu ce soir à l'Élysée par le président François Hollande. La lutte contre le terrorisme sera au centre de leur entretien. Paris avait organisé en mai 2014 un sommet pour coordonner les efforts contre Boko Haram. Monsieur Buhari, investi en mai dernier, avait fait de la lutte contre les djihadistes l'une de ses priorités. Le président nigérian veut aussi renforcer les relations commerciales avec la France. Les cours du pétrole sont au plus bas, le Naira, la monnaie nigériane, est en chute libre et le chômage frappe durement les jeunes dans son pays. Il va prôner les mérites du marché nigérian, le plus grand d'Afrique, avec plus de 170 millions de consommateurs. Enfin, déterminé à combattre la corruption, Muhammadu Buhari va plaider le recouvrement de milliards d'euros détournés de son pays et rechercher l'expertise pour doter le Nigeria d'organismes de contrôle fiables. Le chef de l'État nigérian espère que son homologue français pourra défendre cette cause au sein de l'Union européenne.
Au sujet du Nigeria, toujours le bilan de l'effondrement d'une école primaire coranique s'est alourdi. L'Agence nationale de gestion des urgences compte désormais 6 morts. L'incident s'est produit dimanche soir à proximité de Jos. Nouveau cas d'Ebola en Sierra Leone, il s'agit d'une adolescente de 16 ans décédée dimanche dans le nord du pays. D'après les autorités sanitaires, ce cas est sans relation avec le foyer de contamination situé dans une province voisine. Guerre civile au Soudan du Sud. Les autorités accusent la rébellion d'avoir mené de nouvelles attaques en dépit du cessez-le-feu. D'après le porte-parole de l'armée, Philippe Aguerre, les insurgés ont attaqué les positions proches de Malakal, capitale de l'État pétrolier du Haut-Nil. Les troupes gouvernementales auraient réussi à repousser les rebelles et, d'après l'armée, la situation est désormais calme. En Égypte, les forces de sécurité ont tué 12 personnes, parmi lesquelles des touristes mexicains dans le désert occidental, assurant avoir pris pour cible leur véhicule par erreur en pourchassant des djihadistes. Ils ont été tués par une attaque aérienne avec des bombes lancées d'un avion et de plusieurs hélicoptères, a indiqué aujourd'hui la ministre mexicaine des Affaires étrangères, Claudia Ruiz Massieu. Se fondant sur les témoignages des survivants, elle a précisé que les touristes avaient été frappés alors qu'ils s'étaient arrêtés pour déjeuner. Mexico a exigé une enquête rapide et exhaustive sur ce drame qui a provoqué la mort d'au moins 2 Mexicains. Lancement ce lundi d'une campagne internationale contre les faux médicaments qui touchent le continent africain. « Le médicament de la rue tue » est le slogan de cette initiative de la Fondation Chirac.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Des migrants en pleurs devant des barbelés subitement tendus devant eux, Budapest a fermé ce lundi le principal point de sa frontière avec la Serbie. Et l'Allemagne, jusqu'ici très accueillante, a annoncé un durcissement de sa politique migratoire. Entre-temps, les 28 ministres de l'Intérieur européens sont à Bruxelles pour plancher sur la crise, notamment le système de répartition des demandeurs d'asile. On fait le point avec Nathalie Barge.
La police hongroise a fermé lundi après-midi le principal point de passage emprunté par les migrants pour traverser la frontière serbo-hongroise à Rusk. Une quinzaine de policiers se sont mis en travers de la voie ferrée qui est longée quotidiennement par des milliers de migrants voulant entrer en Hongrie. Pendant qu'ils leur bloquaient le passage, d'autres policiers tendaient des fils de fer sur la voie. La Slovénie a accepté de recevoir plusieurs milliers de migrants si le flux de réfugiés se poursuit après la fermeture par Budapest de la frontière serbo-hongroise, a déclaré ce lundi le ministère de l'Intérieur, tout en invitant les communes et les citoyens à accueillir des personnes si nécessaire. La Hongrie, par où ont transité près de 200 000 personnes cette année, veut mettre en œuvre mardi une législation pour rendre sa frontière avec la Serbie infranchissable. De nouveaux postes de contrôle frontaliers de l'Allemagne ont provoqué des embouteillages de 20 km en Autriche. L'Allemagne, qui a accueilli des milliers de réfugiés sur son territoire, a déclaré avoir renforcé ses contrôles dimanche pour instituer un processus plus ordonné.
En Afghanistan, les talibans ont libéré des centaines de prisonniers à l'issue d'une attaque organisée, déclenchée par un attentat suicide à la voiture piégée. Jean-Roger Bian.
L'attentat a permis aux rebelles afghans de pénétrer dans la prison, a expliqué Mohamed Ali Ahmadi, député provincial et gouverneur de la province orientale de Ghazni. Pendant l'attaque, 355 prisonniers se sont échappés sur 436 détenus, d'après les autorités afghanes. Le gouvernement a déclaré que 148 des prisonniers en fuite sont une menace pour la sécurité nationale. Un ministre afghan à Kaboul a précisé que 7 gardes de sécurité ont été tués et 7 autres blessés. Dans un communiqué, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mouajid, a revendiqué l'attaque, expliquant que la prison était contrôlée par l'agence de renseignement afghane et que les détenus, dont des talibans, étaient maltraités. Ce n'est pas la première fois que les talibans réussissent une évasion de prisonniers en Afghanistan. En avril 2011, le groupe terroriste a organisé une audacieuse attaque à Sarpoza, la plus grande prison du pays dans la province méridionale de Kandahar, afin de libérer 500 détenus. Et en juin 2008, une autre attaque a eu lieu dans cette même prison. Un groupe de talibans armés de fusils d'assaut et de grenades avait réussi à faire s'évader 1200 détenus.
À Jérusalem, l'esplanade des mosquées a été à nouveau le théâtre d'affrontements entre la police et des manifestants palestiniens. Les violences ont éclaté hier. Selon la police, les forces de l'ordre ont essuyé des jets de pierre de la part de jeunes musulmans masqués. 9 personnes ont été arrêtées. Le roi Abdallah II de Jordanie a mis en garde Israël contre toute nouvelle provocation. À la suite de combats où une trentaine de militants du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et un civil ont été tués, le gouvernement turc a levé le couvre-feu imposé hier dans la ville frontalière de Sizra. C'est du moins ce que rapporte l'AFP citant des sources gouvernementales. Cette ville de 120 000 habitants, située près des frontières syriennes et irakiennes, est devenue l'un des points chauds des combats meurtriers que se livrent depuis fin juillet les forces de sécurité turques et le PKK. Les autorités malaisiennes affirment avoir arrêté 3 personnes, un Pakistanais et 2 Malaisiens, dont une femme, dans le cadre de l'enquête sur l'attentat meurtrier du 17 août dernier à Bangkok, en Thaïlande. Le chef de la police thaïlandaise a écarté l'idée d'une extradition, disant que le trio doit pour le moment rester en Malaisie. L'attaque dans un temple de la capitale thaïlandaise avait fait 20 morts et de nombreux blessés, la plupart des touristes chinois. Ici aux États-Unis, Kim Davis, cette greffière du Kentucky, devenue célèbre pour avoir refusé d'accorder des certificats de mariage aux couples homosexuels, est de retour à son poste. Son refus lui a valu 5 jours en prison. Davis a déclaré aujourd'hui qu'elle n'empêchera pas ses assistants de signer les 10 certificats, mais remet en question leur validité sans sa propre signature. « Je ne suis pas une héroïne et je ne veux pas être dans l'actualité », a-t-elle dit. « Je veux simplement travailler et servir ma communauté sans violer ma conscience ». Kim Davis est une chrétienne évangélique. Payer des impôts comme tout le monde, c'est le mot du pape François aux congrégations qui, en Italie, gèrent des hôtels et des restaurants. Le souverain pontife qui s'apprête à faire une tournée pastorale à Cuba et aux États-Unis a encore une fois mis en garde les dirigeants religieux contre la tentation de ce qu'ils appellent, de ce qu'il appelle le Dieu argent. Le pape intervenait sur une radio catholique portugaise. Voilà. Voilà pour les nouvelles, ici chez Rubin Dorcil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.